France Inter.
I've decided after a huge amount of heartache, I will be advocating vote leave because I want a better deal for the people of this country to save them money and to take back control.
C'était en février 2016, il y a 10 ans, le maire de Londres, Boris Johnson, explique qu'il a beaucoup réfléchi. Le Royaume-Uni doit récupérer son argent et take back control, le contrôle. Bojo votera leave, yes, pour sortir de l'Union européenne. En février 2020, le Brexit devient concret et c'est lui le Premier ministre. Aujourd'hui, février 2026, eh bien Londres veut transformer l'adieu en au revoir, quelque chose comme passer de bye bye à see you soon. Ce mercredi, la ministre des Finances, Rachel Reeves, a donc présenté un plan pour resserrer les liens économiques avec les 27 et en clair, c'est un démantèlement progressif du Brexit. Il faut dire que la réalité économique a terni le rêve souverainiste, hein, croissance à plat, déficit au-dessus de 5%, inflation au-delà de 3%, les accords avec les États-Unis, la Corée du Sud ou l'Inde ne compensent pas, le biggest prize du commerce international, a dit la ministre, le gros lot, c'est l'Union européenne. Politiquement, de l'autre côté du Channel, c'est impossible de déchirer les papiers du divorce. Alors comment on se remet ensemble? Londres veut s'aligner unilatéralement sur les règles de Bruxelles. Ça veut dire accepter comme autorité la Cour de justice de l'Union européenne, la bête noire des pro-Brexit, qui ont déjà beaucoup déchanté. Hein, parce que même divorcé, le Royaume-Uni a continué à payer son ardoise à Bruxelles et à accueillir beaucoup, beaucoup de travailleurs immigrés, juste pas des Européens. 10 ans après le référendum, le pays est donc prêt à renoncer à la liberté du divorce sans le confort du mariage, à avoir des devoirs, mais presque sans les droits. Ce serait ça, a proper Brexit, un Brexit réussi, a écrit le ministre chargé des relations avec l'Union européenne. Ça dit tout le poids d'un Brexit raté.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Bienvenue, c'est samedi, c'est Économie avec la bande, Valentin Pérez, Céline Ilan, Cécile Perrin, David Diboué-Black au mix, Guillaume Roux et Laurent Baudouin à la technique. L'invité du Mag Éco ce samedi 14 février, c'est le patron de Safran, Olivier Andriès, un poids lourd du CAC 40. On va parler de la bonne santé de l'industrie aéronautique portée par les milliards de voyageurs chaque année. Et puis on va parler aussi de la montée en puissance des industriels de la défense. Pour les 27, en matière d'armement, comment devenir plus souverain? Interview d'Olivier Andriès vers 9h40 et vous entendrez le reportage de Sophia Berada. Et bonjour Madame Vioboulot.
Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde.
Sandrine Foulon, ce samedi, vous répondez à la question très précise d'Adeline, notre auditrice, qui s'interroge sur les attestations de fin de contrat.
Oui, que faire quand l'employeur traîne des pieds et ne vous remet pas les papiers nécessaires pour vous inscrire au chômage? Je vous raconte les recours possibles tout à l'heure.
Et on vous retrouve juste avant 10h. Mais tout de suite, les débatteurs entre-temps pistent avec Anne-Sophie Le Chevalier de Libération. Salut Anne-Sophie.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Qui discute ce matin avec Patrick Artus. Bonjour Patrick.
Bonjour Alexandra.
Vous êtes conseiller senior Patrick Artus chez le gestionnaire d'actifs Ossiam. On va parler de la PPE, programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est notre feuille de route énergétique. Nucléaire, fossile, éolien, solaire, hydraulique, quelles énergies voulons-nous? Dans quelle proportion pour les ménages et les entreprises? C'est le mix énergétique, c'est ça. Et c'est une décision politique à enjeu économique majeur. Cette nouvelle feuille de route, elle était attendue depuis 3 ans. L'exécutif vient de la dévoiler. Alors, la PPE, bonne route ou mauvaise piste? Eh ben, c'est notre débat.
Dans le Jura, aujourd'hui, le Premier ministre Sébastien Lecornu en visite pour annoncer la programmation pluriannuelle de l'énergie en France pour les 10 prochaines années.
Le débat de ce matin, il va nous amener à nous poser des questions pour dans 4, 5 ans.
Sébastien Lecornu.
10 ans, 15 ans, 20 ans, en fonction évidemment des décisions que nous allons prendre.
Premier ministre.
Notre stratégie pluriannuelle pour l'énergie dit aussi quelque chose de la réconciliation qu'on essaie de mener entre les différentes filières énergétiques.
Ce qui est en train de se passer est un drame pour les Français.
Fabien Bouglé, expert en politique énergétique.
Le Premier ministre est en train de reproduire ce qui s'est passé avec la fermeture de Fessenheim, où pour un accord politicien, On a fermé deux réacteurs nucléaires qui étaient des éléments importants de notre souveraineté énergétique. Et il est en train de faire la même chose, puissance 50.
Ça fait 2 ans qu'on attend ce texte.
Marine Tondelier.
Toute la filière du renouvelable attend des consignes.
Secrétaire nationale des écologistes, candidate à l'élection présidentielle.
Je rappelle quand même que c'est 150 000 emplois directs et indirects en France, les énergies renouvelables. En dépendant des fossiles et du nucléaire, ce qu'on va continuer à faire si on ne fait pas assez de renouvelables, ça pèse sur notre pouvoir d'achat, sur nos factures, ça pèse sur le climat, mais ça pèse aussi sur notre souveraineté.
Il va multiplier par 4 le solaire, c'est que des panneaux solaires chinois.
Jean-Philippe Tanguy, député, président délégué du groupe Rassemblement National à l'Assemblée nationale.
Il n'y a pas de panneaux solaires en France, en Europe, ça n'existe plus. La filière a été détruite, donc on va importer 4 fois plus de panneaux solaires chinois. Les éoliennes sur Terre, ils les doublent, c'est que des éoliennes étrangères, il n'y a pas de filière d'éoliennes terrestres en France. Vous voyez bien, tout ça, c'est n'importe quoi.
80% de ce qui alimente les chaudières domestiques ou d'usines, de ce qui alimente les engins qui roulent, qui volent, qui naviguent.
Jean-Marc Jancovici, président du groupe de réflexion The Shift Project.
C'est aujourd'hui pas de l'électricité, c'est-à-dire essentiellement des combustibles fossiles et un peu de renouvelable chaleur, de la biomasse. Et le gros enjeu, majeur, massif, c'est d'électrifier tous nos usages. Mais ça aurait été une encore meilleure idée si on l'avait fait il y a 10 ou 15 ans.
C'est un projet qui va conduire à des dépenses
André Merlin.
Et donc un gaspillage d'argent public.
Président d'honneur de réseau de transport d'électricité.
C'est ça qui est le plus grave. Et je pense qu'elle n'aboutira pas. Que cette PPE sera remise en cause aux futures élections présidentielles.
On a entendu pas mal de critiques après la présentation de cette PPE. Alors on va tenter un débat, 12 minutes pour poser des faits et avoir la lecture, la double lecture d'Anne-Sophie Le Chevalier et Patrick Artus. Anne-Sophie, je me tourne vers vous. Qu'y a-t-il dans cette feuille de route énergétique ?
Alors, cette feuille de route énergétique, elle a déjà un mérite, c'est celui d'exister. On l'a entendu, ça fait plusieurs années, près de 3 ans qu'on l'attend. Elle répond, elle essaye de répondre d'ici à 2035 aux enjeux de décarbonation de la France, ce qui veut dire quand même que la promesse d'atteindre la neutralité carbone en 2050 est toujours d'actualité dans notre pays, et de tenter de rester dans les clous de l'accord de Paris, qui, je rappelle, visait à limiter le réchauffement sous les 2 degrés d'ici à la fin du siècle, même si on n'a pas du tout la bonne trajectoire et ça va être difficile, mais au moins, ce genre de texte est un peu rassurant quand on regarde de l'autre côté de l'Atlantique, où les États-Unis de Donald Trump, pas plus tard que jeudi, viennent d'abroger le texte servant de fondement à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, ça répond à un autre enjeu que le gouvernement a beaucoup mis en avant, qui n'est pas exactement nouveau, qui date notamment de 2022, c'est l'enjeu de souveraineté. Parce qu'on a une dépendance aux énergies fossiles, et le pétrole, le gaz sont quasiment totalement importés en France, depuis des pays, pour citer Roland Lescure, le ministre de l'économie qui présentait hier la PPE, qui pour certains ne nous veulent pas du bien, pour d'autres étaient des amis, et ne le sont plus tout à fait. Donc là, évidemment, on pense aux États-Unis. D'autre part, un autre mérite de cette PPE est de donner enfin de la visibilité aux différentes filières, notamment des renouvelables, qui attendaient de savoir pour exactement investir et mettre fin un peu à cet atermoiement. Mais là, on l'a entendu, il y a quand même une clause de revoyure qui est inscrite dans cette PPE dès l'année prochaine,
ouais, 2027.
En 2027. Donc, année d'échéance présidentielle, faut-il le rappeler, et qui inquiète évidemment les filières pour le développement.
Patrick Artus, pour compléter cette photo, on peut peut-être dire ce que dit la PPE sur le nucléaire précisément et sur les renouvelables.
Oui, alors sur le nucléaire, bon, on garde le parc actuel, y compris le EPR de Flamanville, et on l'améliore, on fait des améliorations techniques, ce qui permet de produire un peu plus d'électricité à base de nucléaire à l'horizon 2035. Et puis on développe surtout l'éolien en mer, et à moindre degré le photovoltaïque et l'éolien terrestre.
On met un peu le frein sur le renouvelable, les panneaux solaires et puis les éoliennes terrestres.
On a quand même une hausse importante. On va passer de 31 TWh à 67, donc on a plus que doublement quand même à l'horizon en 10 ans.
On construit des EPR aussi.
Alors on construit des EPR, ouais. Mais ils rentrent en service à partir de 2038, donc c'est au-delà de l'horizon de cette PPE.
6 EPR.
6 oui. EPR et puis 8. plus potentiellement.
8, une option sur 8 supplémentaires.
Oui, là. Et non, alors je crois que c'est du bon travail, contrairement à ce qui a certaines directions.
Oui, le ZAP, il était un peu à charge, je suis d'accord.
Alors on ferme plus de nucléaire, ce qui est quand même une extraordinaire différence avec la PPE précédente. Et on continue à monter en charge les renouvelables. On a aujourd'hui 42% de l'énergie qui est décarbonée en France. Hein, c'est le nucléaire, l'hydraulique, la biomasse, etc. On va passer à plus de 70% en 2035, d'après. Et donc, on ne peut pas dire qu'on met un frein à la décarbonation. Hein. Ce qui est difficile, enfin, la production d'énergie, ça se contrôle assez bien. Vous pouvez construire plus ou moins de photovoltaïque, d'éoliennes. Alors, le nucléaire, c'est très long, hein, mais ce qui est très difficile à appréhender, c'est la pertinence des hypothèses sur la demande d'électricité. Donc, c'est la pertinence des hypothèses sur la décarbonation de l'industrie, sur l'installation de pompes à chaleur chez des particuliers, sur le poids du parc électrique. Mais du point de vue de l'offre, je crois que c'est un bon travail et qui est très très bien documenté et qui a des hypothèses raisonnables. Et à nouveau, ce n'est pas du tout un frein à la décarbonation de l'économie.
Et puis il y a quand même un soulagement, c'est que on aurait pu craindre un moratoire sur les énergies renouvelables.
Alors oui, ça c'est quand même tout le débat politique.
Ça avait quand même animé tout le débat politique, notamment l'an dernier. L'été, en juin, à l'Assemblée, les LR, appuyés par le RN, avaient voté un moratoire qui finalement n'avait pas abouti. Donc, certes, c'est moins que dans les précédentes versions pour les renouvelables, mais au moins, il y a toujours les renouvelables. Alors, ensuite, c'est vraiment un choix très fort sur le nucléaire. Ça, c'est, on peut quand même le redire aussi, c'est un revirement spectaculaire. C'est la traduction dans un texte officiel d'une promesse de Macron qu'il avait faite au discours de Belfort en 2022, où, au lieu de fermer des réacteurs, on se met à en reconstruire. Avec les risques que ça comporte aussi, enfin, qu'il faut quand même rappeler. D'ailleurs, Greenpeace a aussi vertement critiqué cette PPE.
Ils ont été des plus vocaux, les critiques, mais c'est pour ça que là, on essaie de faire du fait. Économiquement...
Et du coup, ça lance aussi le financement. C'est aussi un texte dont il y avait besoin au niveau européen pour lancer le financement de ces réacteurs, puisque mais c'est le choix qui est
Alexandra, fait. Il faut dire qu'on a entendu deux critiques. Il y a des critiques des gens qui disent qu'il faut faire du tout nucléaire. Il faut arrêter les renouvelables. Le tout nucléaire, c'est absolument absurde. C'est invraisemblable. On a aujourd'hui la part du nucléaire dans la production d'énergie, c'est 37%. Et donc la consommation totale d'énergie va un peu baisser parce qu'on fait des économies. Enfin voilà. Mais ça voudrait dire de passer de 37% à 100% la part du nucléaire. Ça veut dire tripler le parc nucléaire par rapport au parc actuel. C'est absolument infaisable. Même les Chinois n'y arriveraient pas. Donc c'est même pas la peine de réfléchir à l'hypothèse tout nucléaire. Et puis l'hypothèse tout renouvelable que défendent probablement les Verts, c'est aussi absurde, parce que ça veut dire des problèmes de stockage énormes, des problèmes d'intermittence énormes. Et donc je crois que ce qui nous est présenté ici, où la part des renouvelables monte à peu près à 30% à l'horizon 2035, c'est un compromis qui est quand même assez équilibré. Et à nouveau, je répète, hein, c'est la difficulté, c'est la pertinence des hypothèses sur la demande d'électricité, c'est pas la pertinence des hypothèses sur l'offre d'électricité.
Vous êtes d'accord, Anne-Sophie Le Chevalier, dans ce débat sur il faudrait faire un moratoire, les subventions ça coûte trop cher, les renouvelables c'est un abîme financier, ça n'a pas de sens économiquement ?
Ça n'a pas de sens, puisque déjà le nucléaire, on peut quand même rappeler, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, le cas de Flamanville, hein, où ça a été raccordé depuis il y a 2 ans, je crois, avec 12 ans de retard sur le calendrier initial et une facture multipliée par 5 par rapport aux évaluations initiales. Donc, on voit que ça peut coûter très cher. D'ailleurs, pour la construction des nouveaux réacteurs, il y a eu des chiffrages qui ne cessent d'augmenter selon les années, et donc c'est aussi des sommes très importantes. Pendant ce temps-là, le prix des renouvelables, lui, baisse. On n'est plus du tout à ce qu'on était, il faut quand même le redire, au niveau à la fin des années 2000.
Patrick Artus acquiesce face à vous.
Les prix, là, j'ai repris. Selon l'ADEME, le prix de la production du photovoltaïque a diminué de 80% entre 2012 et 2022. Celui de l'éolien terrestre de 40%. Alors, ce qui pèse encore, c'est vrai, il faut le dire, sur les finances publiques aujourd'hui, ce sont les contrats passés au début des renouvelables, au moment de l'installation avec les contrats d'amorçage, en fait, à la fin des années 2000. Mais ça, justement, l'idée, c'est de... Enfin, le gouvernement veut voir comment il peut les faire alléger le poids, donc, dans les finances publiques. Donc ça, c'est quand même... Enfin, il n'y a pas...
Vous êtes d'accord tous les deux pour dire que ce débat politique, il n'y a pas lieu. Vous êtes assez en phase là-dessus.
Rappelons juste que la facture des fossiles, chaque année, c'est 60 milliards d'euros. De milliards d'euros. Ouais. Et donc, c'est 60 milliards d'euros qu'on donne aux pays qu'on citait tout à l'heure. Et alors que, bon, certes, le photovoltaïque, la France a complètement raté le coche. On n'a pas vraiment de production des panneaux solaires en France. Mais en même temps, une fois qu'on a acheté à l'Asie les panneaux. Une fois qu'ils sont installés, ils servent en France.
Patrick Artus, est-ce qu'on peut dire quelque chose aux consommateurs, aux ménages, aux entreprises de la future facture avec cette feuille de route énergétique ?
Et alors, je veux dire deux choses. Bon, d'abord, pour répondre à votre question, l'hypothèse faite que l'électricité coûtera à peu près 75 euros le mégawatt-heure, avec le mix énergétique incluant le nucléaire en amorti et puis les énergies renouvelables, ce qui est moins cher que dans les autres pays européens. C'est à peu près moins cher de 25% que dans les autres pays européens. Donc il n'y aura pas de surcharge pour le consommateur grâce à ce qui vient d'être dit, c'est la baisse très forte des coûts des énergies renouvelables. Et puis la vraie question, c'est est-ce qu'on aura les moyens d'investir pour décarboner tous les usages ?
Voilà, en fait c'est ça le vrai sujet. Et vous ne cessez de pointer depuis le début du débat, mais vous avez raison.
C'est ça le cœur du sujet. Il y a 80 milliards d'euros par an à dépenser pendant plus de 10 ans pour faire à la vitesse qui est prévue. C'est une vitesse très forte. Hein. Par exemple, l'hypothèse, c'est qu'on va avoir pratiquement 70% de ventes de voitures électriques en 2035. Alors, c'était 28% l'année dernière.
Ce qu'il faut dire, c'est que là, on ne s'est pas électrifié comme anticipé. On n'est pas allé aussi vite que...
On a baissé de 1,5% les émissions de CO2, alors que c'était vraiment 5%. Donc, on électrifie doucement, parce que c'est très compliqué. Et c'est très cher. Et donc, il faut des aides publiques. Et la vraie question, on voit bien sur Dunkerque, on a besoin de l'État pour aider les entreprises, pour aider les particuliers.
Dunkerque, ArcelorMittal. Ouais.
Et donc, la question, c'est est-ce qu'on aura l'argent pour électrifier aussi vite que ce qui est prévu ?
Depuis 2-3 ans, on vit un problème qui est de surcapacité. On produit plus d'électricité que celle qu'on consomme. Donc, par exemple, RTE, les gestionnaires du réseau d'électricité, disaient une des solutions pour résoudre ça, c'est d'engager un mouvement d'électrification rapide du pays. Et on voit bien que c'est là que ça coince. Ce sont ces usages, l'électrification. Alors, pourquoi ça coince ? On a perdu énormément de temps dans l'électrification des usages. Plutôt que de faire d'échecs pour subventionner, par exemple, en 2022, au moment de la crise inflationniste, quand le prix du litre d'essence dépassait les 2 euros à la pompe, plutôt que de faire des chèques, de dépenser 8 milliards, faire des ristournes carburant à tout le monde, qu'on profitait aux plus riches, avec les plus grosses voitures, qui roulaient le plus, et pas seulement aux travailleurs et qui avaient vraiment besoin
de leur diesel.
Comme ça a été le cas ensuite. On a perdu un temps pas possible. On a eu une politique quand même complètement erratique sur l'électrification. Enfin, MaPrimeRénov', on n'a pas le temps de développer, mais le nombre de changements dans ce dispositif qui vise à améliorer, par exemple, la rénovation énergétique des logements, on l'a changé tous les 3 mois, tous les 6 mois. Il n'y a pas pire pour que...
Il y a les pompes à chaleur aussi, comme exemple.
C'est à l'intérieur des fameux bouquets de rénovation. Le bonus automobile, on a eu aussi beaucoup de fluctuations. Enfin, il y a besoin d'une impulsion de l'État qui coûte certes de l'argent, mais au moins une constance pour que les gens puissent se dire il faut passer à autre chose et réussir à passer à l'électricité. C'est ce que, par exemple, les fédérations qui représentent les filières électriques appellent à un choc là, cette semaine fiscale, avec des décisions ambitieuses, réglementaires, nécessaires pour faire de la France un environnement réellement favorable à l'électrification. Et on devrait en savoir plus, et c'est ça qui serait un peu la clé, au printemps, fin du printemps, ouais, où le gouvernement dira « voilà le plan d'électrification du pays ».
Patrick Artus, est-ce qu'on sait combien ça peut coûter de passer à ce niveau d'électrification ?
Oui, alors, pour l'ensemble des usages, l'estimation c'est 80 milliards d'euros par an. Et pour l'industrie, c'est une grosse dizaine, pour la décarbonation de l'industrie, c'est une grosse dizaine de milliards d'euros par an sur une dizaine d'années, donc c'est à peu près 100 milliards. Et pour l'instant, il y a des aides publiques qui sont budgétées par France 2030 à hauteur de 6 à 7 milliards.
Ok.
Et donc, il resterait... le problème, c'est qu'il resterait 93 milliards à la charge des entreprises et qui n'ont pas, pour beaucoup d'entre elles, les moyens de passer à l'électricité. Et donc, le vrai sujet, c'est l'argent, quoi.
Le vrai sujet, c'est l'argent. Anne-Sophie ?
Et avec un besoin vraiment important d'accompagner les ménages les plus défavorisés dans cette transition, qui n'en ont pas forcément les moyens.
Patrick Artus et Anne-Sophie Le Chevalier, ils ont fait le débat dans N'arrête pas l'écho. 9h33 sur France Inter. Dans moins de 10 minutes, l'invité du Mag Éco, c'est un grand industriel du secteur aéronautique, Olivier Andriès, le directeur général de Safran. On parle de matériel civil et militaire. Le climat géopolitique a changé drastiquement depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche. On l'entend au Davos de la Défense. Depuis hier, c'est la conférence annuelle sur la sécurité de Munich. Aujourd'hui, par exemple, le Premier ministre britannique, Keir Starmer, dit qu'il veut appeler l'Europe « géant endormi » à réduire sa surdépendance envers les États-Unis en matière d'armement. Bon gré mal gré, les Européens reprennent leur défense en main et ça passe en effet par la production de chars, d'obus, de drones, d'avions de chasse que les 27 achètent encore aujourd'hui largement à l'étranger. Comment devenir plus souverain? Voici le reportage de Sophia Berada qui a emporté le micro d'On n'arrête pas l'écho jusqu'à Toulouse et cette PME qui fabrique des drones.
Bonjour, allez-y, rentrez.
Merci.
Bastien Mancini, je suis le président de la société Delair.
Dès qu'on arrive dans l'entrée du bâtiment, il y a déjà plein de modèles de drones.
C'est un peu notre showroom ici. Donc on a le tout premier drone de Delair, le DT-18, qu'on a sorti en 2012.
Qui servait
à inspecter des pipelines et des lignes électriques. Là, vous avez le DT-26 envoyé en Ukraine et qui est utilisé par l'armée ukrainienne. Donc là, on rentre dans le vif du sujet.
On se croirait presque dans un atelier de couture.
En fait, les drones sont faits avec ces rouleaux de tissu. Ça, c'est de la fibre de verre, ça, c'est de la fibre de carbone. On vient tailler le tissu à la forme des différents patrons qui vont être ensuite mis dans les moules. Ça va être imprégné avec de la résine pour faire les pièces elles-mêmes. L'entreprise ne fait que grossir et on produit de plus en plus. Voilà, on commence à être un peu à l'étroit et donc on a un projet pour se déplacer dans un endroit plus grand pour pouvoir augmenter encore les cadences de production. Là. Il y a quelques années, la France a pris conscience que avoir des drones, ça devenait indispensable. Et donc, ils ont consulté les industriels français en disant qui a un drone permettant de faire des frappes à quelques dizaines de kilomètres de distance. Personne n'avait un truc prêt sur étagère. La DGA a décidé d'acheter, puisqu'il y avait une urgence opérationnelle, d'acheter du matériel américain et en parallèle de lancer des procédures pour faire émerger une capacité industrielle française. Et on a fait des prototypes dont on a livré les premiers exemplaires en fin d'année dernière. Et ben, c'est arrivé là alors que les systèmes américains qui avaient été commandés sont toujours pas arrivés.
Sur les drones, la France, est-ce qu'on peut dire qu'elle est souveraine parce qu'elle a appris à construire les drones dont elle avait besoin pour son armée? Est-ce qu'elle en fabrique suffisamment?
Oui, la France a passé des commandes récemment et des commandes de plus en plus nombreuses avec des volumes de plus en plus grands. Si on parle des petits drones, qui est ce que moi je connais le mieux, il y avait un programme à 100 millions d'euros tous les 10 ans il y a quelques années, ça fait 10 millions par an. Et ça doit passer à 100 ou 150 millions l'an prochain, donc fois 15. Et je pense que ça va encore augmenter. L'ADIF, l'Association des drones de l'industrie française, milite pour avoir au moins 250 millions par an sur les petits drones. Enfin, ça pourrait être plus par rapport à d'autres pays qui mettent le paquet là-dessus. Hein. UK, ils ont passé pour plus de 300 millions. En Allemagne, sur des drones armés, donc des munitions téléopérées, ils ont passé l'an dernier un contrat de 1 milliard à 3 consortiums. Ouais, il y a des pays qui vont fort sur le sujet et ça va que en augmentant en ce moment.
La Direction générale de l'armement a annoncé des commandes de matériel militaire à hauteur de 42 milliards d'euros pour la seule année 2026. Malgré cet effort, des entreprises restent en sous-régime. Me voici maintenant à Paris, au siège du J4, le groupement des industries françaises de défense et de sécurité terrestre.
Bonjour.
Merci.
Ça va?
Ça va bien et vous?
Oui, ça va. Je vais installer dans la salle.
Bonjour.
Bonjour.
Emmanuel Levachet.
Enchantée, Sophia Berada.
Donc, je suis Emmanuel Levachet, président du J4, également directeur général de la société Arcus.
Arcus qui fait ?
Des blindés. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que l'industrie terrestre est capacitaire, c'est-à-dire qu'on est capable de produire davantage. Qu'est-ce qui nous pose problème pour aller plus vite ? C'est d'abord des ressources humaines. C'est un problème global pour l'industrie, une pénurie d'ingénieurs. Deuxième goulot d'étranglement, c'était vraiment les chaînes d'approvisionnement, l'ensemble des réseaux de fournisseurs. Alors, on essaye d'être le plus souverain possible, d'avoir donc des pièces et des fournisseurs qui sont plutôt basés en France. On sait que l'industrie française et surtout les petites et moyennes entreprises sont fragiles parce qu'elles sont sous-capitalisées. Donc il faut un accompagnement aussi en termes de financement. Tout le système bancaire, financier doit aussi suivre et être intéressé à investir dans la défense. Mais après, à la fin, évidemment, c'est aussi une stratégie, une direction, une visibilité qui, et bien sûr les budgets. budgets qui vont avec.
Oui, le budget de la défense, justement, c'est un des seuls qui va augmenter en 2026 en France. Mais est-ce que vous trouvez que ça se traduit suffisamment en commande auprès des industriels?
L'effort budgétaire, les efforts sont là, ils sont très significatifs, donc on ne peut pas, entre guillemets, se plaindre, mais c'est plutôt la stratégie, les grandes orientations, les choix qui doivent être un peu, peut-être, précisés, plus que la quantité elle-même qui, on sait, est par nature déterminée aussi par les contraintes budgétaires en France.
Le budget alloué à la défense pour cette année représente 57 milliards d'euros, une hausse de 13% par rapport à l'an dernier. Même tendance chez nos voisins européens, l'Allemagne par exemple prévoit de dépenser 108 milliards d'euros en 2026. Les 27 se réarment, mais chacun avec sa propre stratégie et ses propres industriels. Une absence de coordination que déplore l'Allemand Tobias Kremer, cet eurodéputé sociodémocrate et membre de la Commission de la Défense et des Affaires étrangères du Parlement européen. Il revient tout juste d'un déplacement en Ukraine.
Chaque pays fait des commandes tout seul. Je vais acheter des chats autant qu'Allemagne et après il y a la France qui fait son propre truc, et l'Italie, etc., etc. Chaque fois, il y a des petites quantités. C'est beaucoup plus cher pour l'industrie à le produire et c'est beaucoup plus cher pour nous de l'acheter. Mais ça, c'est seulement côté de la demande. Mais moi, je trouve aussi il y a un problème au niveau européen côté d'offres. On a 27 industries de défense différentes. On reconnaît même pas les certifications mutuelles. On paye le prix sur le plan militaire parce que c'est pas seulement l'Ukraine, mais nos propres soldats qui à l'instant attendent des équipements qui arrivent en quantité insuffisante et trop tard. On paye le prix sur le plan politique. Parce que nous ne sommes pas à la table des négociations, mais de plus en plus au menu. Et aussi au niveau financier, lorsque la fragmentation de notre marché de défense nous oblige à payer à peu près une prime de 30%. Ça, c'est quand même inacceptable pour la deuxième économie mondiale. Déjà au niveau européen, nous devons mettre en commun nos achats. Créer un écosystème de défense qui nous permet de créer une défense européenne compétitive où chaque euro investi apporte un maximum d'innovation, un maximum de sécurité, aussi un maximum de rentabilité.
Mettre en place un marché européen de la défense, cela peut prendre du temps alors que les risques évoluent vite. Comment muscler notre défense plus rapidement ? À Paris, je rencontre Renaud Bellet dans un café. Pour le co-directeur de l'Observatoire de la Défense à la Fondation Jean Jaurès, cette accélération peut passer par des accords industriels entre quelques pays volontaires.
Malheureusement, en fait, on n'a pas les moyens budgétaires de pouvoir couvrir l'ensemble des capacités, surtout les plus ambitieuses. C'est pour ça qu'on veut développer des partenariats avec d'autres pays, l'Allemagne, par exemple, dans les chars de combat ou les avions de combat, l'Espagne également, mais aussi, par exemple, avec les Suédois dans l'armement terrestre, parce qu'en fait, ça permet de mutualiser certains coûts tout en maintenant la gamme des moyens dont on peut disposer. Donc, en fait, souvent, on passe d'une logique d'autonomie à une logique d'interdépendance, mais avec des partenaires qui sont équilibrés.
Est-ce que ça a du sens de parler de souveraineté française quand on parle de défense ?
Il faut garder en tête qu'on est crédible parce que les forces françaises sont bien entraînées, elles sont déployées régulièrement sur des théâtres d'opération qui montrent leur crédibilité aussi. En fait, on a les capacités de foudroyer quelque part un peu l'adversaire et surtout, ce qui rend crédible la France, c'est qu'elle a la dissuasion nucléaire. L'objectif de la défense, c'est pas de se battre, c'est d'être sûr que l'adversaire n'attaquera pas parce qu'il est convaincu, il sera incapable d'imposer sa volonté. Malheureusement, les moyens français sont très performants, mais quand même en quantité limitée. On a 220 000 soldats alors qu'on avait plus de 600 000 à la fin de la guerre froide. En termes de stock, de munitions et de soldats, on ne pourrait pas tenir des mois et des mois. On a vu en Ukraine le retour des guerres d'attrition. Les guerres d'attrition, ce sont des guerres d'usure. Et donc, l'adversaire peut essayer de nous user en espérant qu'on n'ait plus les moyens de continuer le combat. Et donc, la question, c'est de trouver un bon équilibre pour avoir assez de personnel, assez de matériel et assez de munitions pour tenir suffisamment longtemps pour qu'il soit convaincu de ne pas continuer. Et c'est ça, peut-être, aujourd'hui, l'objectif de la politique de défense. La loi de programmation militaire devrait avoir cette finalité pour savoir, justement, quels sont les ajustements qui permettront de crédibiliser notre défense.
Industrie de défense, comment être souverain ? C'était le reportage de Sophia Berada.
France Inter. On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et on continue la réflexion avec le grand motoriste et équipementier aéronautique du CAC 40, le directeur général de Safran et l'invité dont n'arrête pas l'écho. Bonjour et bienvenue Olivier Andriès.
Bonjour.
Vous êtes aussi le président du GIFAS, ça veut dire que vous êtes la voix des industries aéronautiques et spatiales. Alors on parle de la défense, c'est un cinquième de votre chiffre d'affaires. Vous fabriquez notamment les moteurs du Rafale, l'avion de chasse de Dassault. Si tout va bien, la visite d'Emmanuel Macron en Inde à partir de mardi devrait s'accompagner de la signature d'un accord avec l'Indian Air Force pour 114 appareils. Ce serait un contrat historique, dit l'Elysée. Olivier Andriès, est-ce que ça serait un contrat historique aussi pour vous, Safran ?
Bon, on n'en est pas encore au contrat. Ce qui est la très bonne nouvelle, c'est que le gouvernement indien a annoncé sa volonté d'entrer dans une négociation de gré à gré avec les industriels français, avec Dassault évidemment et les autres industriels qui accompagnent sur le Rafale pour l'acquisition de 114 Rafales. Donc c'est une très bonne nouvelle et on va ouvrir maintenant la voie à une négociation dans les prochains mois pour arriver à un contrat avec l'Inde. Donc c'est évidemment historique parce que c'est un contrat de cette ampleur, on l'a jamais vu. Le précédent contrat d'une ampleur qui était historique, c'est le contrat qui a été annoncé avec les Émirats Arabes Unis. C'était en 2022 de mémoire pour 80 appareils. Là, on parle de 114 appareils, donc c'est évidemment très très important.
Et si ça se faisait, vous ouvririez une ligne de production en Inde, c'est ça ?
Alors, si ça se fait, l'une des conditions c'est qui est sollicitée par l'Inde, qui a une ambition aussi de résilience et d'autodétermination en quelque sorte, c'est qu'une partie de l'activité industrielle se fasse en Inde. C'est ce qu'ils appellent le « Make in India ». Donc ils vont nous demander de positionner un certain nombre d'activités en Inde. Et notamment, on est prêt à ouvrir une ligne d'assemblage de moteurs M88, c'est le moteur du Rafale, en Inde.
Olivier Andriès, la planète se réarme, le climat géopolitique a changé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez qu'avec Donald Trump à la Maison-Blanche, eh bien, tout ce qui est technologie non américaine suscite plus d'intérêt qu'auparavant auprès des acheteurs ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est quand vous regardez en Europe, les pays européens dépensaient à peu près 2% de leur budget sur la défense. Et 75% de ces équipements étaient achetés auprès de fournisseurs non européens et essentiellement américains. Donc, en fait, la grande partie des budgets de défense, en fait, finalement, servait à alimenter l'industrie américaine et sert encore d'ailleurs. Eh bien, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une prise de conscience des autres pays européens sur le fait que, oui, quand même, c'est important d'être un peu plus, souverain. Un peu plus souverain. Alors, évidemment, les choses ne vont pas basculer complètement du jour au lendemain. Mais on sent une volonté, en fait, d'aller un peu plus vers des équipements européens.
Nous avons écouté ensemble le reportage de Sophia Berada. Il y a toute cette idée que, donc, il y a un souhait au niveau européen de créer à la fois un marché de la défense et puis peut-être une industrie de la défense. Ça a l'air difficile. Évidemment, j'ai envie de vous parler de l'avion de combat du futur franco-allemand, le SCAF. On a lu dans la presse allemande que le SCAF, c'est fini. C'est ce qu'aurait déclaré, je mets tous les conditionnels, le chancelier Merz à ses ministres. Comment va cet avion du futur ? Est-ce que c'est plié ? Est-ce que c'est mort ?
Alors, je ne vais pas spéculer là-dessus. Je pense que les plus hautes autorités politiques du pays souhaitent toujours aller de l'avant. Maintenant, les coopérations en Europe, c'est toujours difficile. Il faut un alignement des agendas politiques des pays concernés, il faut évidemment un alignement des besoins opérationnels. Et puis, il faut une gouvernance entre les partenaires industriels qui fonctionne bien. Et pour que ça fonctionne bien...
Et c'est là que ça ne va pas trop.
Il faut une reconnaissance mutuelle des compétences de chacun et une répartition du travail qui reflète les compétences de chacun reconnues et partagées.
Bon, pour l'instant, vous, chez Safran, vous travaillez toujours dessus ?
Alors, nous, on est responsable du pilier moteur. Et nous, on a une très bonne relation avec notre partenaire allemand qui s'appelle MTU. Et en fait, ça se passe bien. Évidemment, quand on regarde les enjeux, on aura besoin de manière générale de plus d'Europe. Vous savez, l'Allemagne est en train de prendre, enfin, a pris des décisions d'investissement massif, 108 milliards. Ça veut dire qu'en 2030, le budget allemand de la défense sera des très très loin le premier budget de la défense en Europe.
Et ça, c'est un tournant. Si on se concentre sur l'industrie française à présent, exclusivement française, il y a un mois, jour pour jour, le chef de l'État vous a mis un très gros coup de pression aux industriels de la défense. Il vous a appelé une nouvelle fois à produire plus et plus vite. Il a même menacé, sinon, d'aller chercher des solutions européennes, d'acheter ailleurs. Est-ce qu'il a raison ? Est-ce que vous êtes trop lent ?
Alors moi, ce que je vois, c'est que depuis 3-4 ans, il y a eu des montées en cadence extraordinaires chez la plupart des industriels de la défense en France. Moi, je vais vous donner un exemple. Nous, on produit des moteurs de missiles. On a augmenté notre capacité par 5. On fait dans le domaine de la défense ce qu'on appelle des bombes guidées propulsées. On a augmenté notre capacité par 4. KNDS qui fait les fameux canons César, oui, qui a multiplié sa capacité par 4 ou 5. La société Dassault et tous les partenaires de Dassault qui ont augmenté, je dirais, la cadence de production du Rafale.
Vous êtes en train de me dire que vous n'avez pas compris le chef de l'État.
Je suis en train de vous dire simplement que les industriels ont pris leurs responsabilités, augmentent les cadences et les augmentent pour ça. Ils ont besoin de visibilité, et la visibilité, c'est les commandes, c'est pas simplement des mots.
Donc, plus de visibilité sur les commandes, je retiens cela. L'essentiel de votre activité chez Safran, quand même, ça n'est pas la défense, hein, je l'ai dit, c'est plutôt le civil, 80%. Vous avez présenté de très bons résultats 2025 ce vendredi, des ventes et un bénéfice net en hausse. On voit bien que vous êtes porté par le tourisme, le désir de voyager, la demande d'avions des compagnies aériennes. Est-ce que vous allez recruter ?
On recrute massivement. En France, bien sûr, mais même partout dans le monde, on a recruté plus de 20 000 personnes l'an passé.
Et cette année ?
Et cette année, je pense qu'on est parti pour faire la même chose. On est sur une trajectoire de croissance très très forte. Voyez, le trafic aérien, en 2025, il y a 5 milliards de personnes qui ont pris l'avion dans le monde.
Donc vous allez recruter, vous allez ouvrir des usines ?
Et donc, du coup, en fait, il y a un besoin énorme partout dans le monde pour des avions. Et donc les avionneurs, Airbus bien sûr, mais également Boeing, investissent pour monter en cadence. Et donc toute la chaîne qui est derrière, donc le motoriste, mais également les équipementiers, doivent investir pour suivre les montées en cadence. Et puis, les compagnies aériennes, elles ont des besoins de maintenance, elles ont besoin de pièces de rechange pour continuer à faire voler leurs avions. Donc oui, on est engagé dans un effort massif qu'on n'a jamais vu avant.
Et vous avez même annoncé une usine ce vendredi.
Alors, hier, nous avons annoncé un nouveau projet, une nouvelle usine au Maroc pour des trains d'atterrissage, dans le but de répondre aux besoins d'Airbus d'aller jusqu'à cadence 75 sur les Airbus A320 Neo.
Et en France, Olivier Andréis ?
Alors justement, quand je regarde, on a annoncé pour 1,4 milliard d'euros d'investissement en 2025 sur 90 projets en tout, en France et hors de France. En France, on a annoncé il y a quelque temps déjà une usine à Rennes pour de la fonderie d'aubes de turbines. C'est un sujet de souveraineté aussi. Une usine à Rennes, 500 personnes. On a annoncé la quatrième usine de freins carbone en Rhône-Alpes, après une mise en concurrence.
Alors,
pour être clair,
ça,
entre le Québec et la France.
Je voudrais qu'on parle de ça, parce que c'est un enjeu. On est sur une semaine où on parle beaucoup de compétitivité. Vous avez beaucoup hésité, mais finalement, vous avez choisi la France. Qu'est-ce qui vous a décidé ?
On a choisi la France parce que on a réussi, à partir du printemps 2025, à avoir un dialogue constructif avec EDF. En fait, sur cette usine de freins carbone, notre critère était très simple. C'était la compétitivité du coût de l'énergie. On voulait avoir une énergie décarbonée, parce qu'on veut être décarboné. Et donc, les deux énergies possibles, c'était soit le nucléaire, en France, soit l'hydraulique. Et l'hydraulique, on a regardé le Canada, on a regardé le Québec, en fait. La compétition était très, très, très serrée. Et puis finalement, à la fin des fins, parce que EDF a fait des efforts, parce qu'on avait aussi un contrat long terme avec EDF, et puis également la région Rhône-Alpes a fait des efforts, l'État a fait des efforts, et donc au global, la solution française l'a emportée par rapport à la solution du Québec.
Si on met tous les outils dont on a parlé cette semaine sur la table, alors il y a ceux qui veulent, au niveau européen, il y a ceux qui veulent des droits de douane, plus de murs de protection, ceux qui veulent des conditions sur le « Made in Europe », ou « Made with Europe », ça c'est la position de Berlin. Il y a ceux qui disent il faudrait un grand emprunt commun pour financer des secteurs d'activité, ça c'est la position de Paris. Olivier Andréis, pour vous l'industriel, qu'est-ce qui fait la compétitivité ? Qu'est-ce qui fait qu'on choisit l'Europe ?
Pour la première fois, en 2025, il y a enfin un programme européen où on a mis en avant, enfin, où le programme européen prend en compte la préférence européenne. C'est une première en Europe, et notamment dans le domaine de... Ce programme s'appelle SAFE, qui vise à financer des projets dans le domaine de la défense, des projets de coopération européenne. Et donc, il y a deux critères qui, finalement, ont été pris en compte. Et ça, c'est vraiment la France qui a poussé ça, et c'est derrière aussi une industrie française. C'est le contenu européen à 65%, et aussi un autre élément très important de souveraineté, c'est ce qu'on appelle l'autorité de conception. L'autorité de conception, c'est celui qui a conçu. Et celui qui l'a conçu, en général, il a les clés. Donc, par exemple, le F-35, qui a été acheté par de très très nombreux pays européens de l'OTAN, qui est l'appareil américain. Il a été conçu par les États-Unis. Donc ce sont les États-Unis qui ont les clés de l'utilisation du F-35. Donc vous voyez bien que ça, typiquement, ça pose une question de souveraineté. Alors que la France est en Europe le seul pays qui est capable de faire un avion de combat de A à Z, et qui n'a aucune dépendance vis-à-vis de qui que ce soit, parce que nous sommes capables de faire cet avion de A à Z. Et donc on a une maîtrise complète, y compris de l'utilisation de l'avion. C'est ça la souveraineté.
La dernière question, Olivier Andriès, parce que ça a beaucoup marqué, c'était en avril 2025 face à une commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les freins à la réindustrialisation. Vous avez dit, il n'est plus question aujourd'hui d'investir en France dans une ville détenue par une majorité écologiste. Ça n'est plus possible, je ne le ferai pas. Est-ce qu'en 2026, vous le pensez toujours ?
Écoutez, d'abord, on investit beaucoup en France. On a et le projet d'investissement à Rennes, que l'on a négocié avec la maire socialiste de Rennes et le conseil régional de Bretagne, on a eu un très très bon dialogue, évidemment, il est sur les rails. Et donc ce projet, on le fera, et l'usine ouvrira l'année prochaine. 500 personnes. Et donc ce qu'on n'a pas compris, c'est que alors même qu'on annonce ce projet, qu'on crée 500 emplois à Rennes, dans un contexte où on fait zéro artificialisation nette parce qu'on s'installe à l'endroit où était auparavant Citroën devenu Stellantis, on n'a pas compris que la majorité écologiste de la ville vienne nous critiquer et nous jeter, j'avais dit, des tomates. Évidemment, c'était une image. Et donc, c'est pour ça que j'ai réagi comme cela. Mais vous comprenez bien, quand vous cherchez à vous établir quelque part, vous attendez à être bien accueilli, surtout quand vous créez de l'emploi. Maintenant, on a annoncé la quatrième usine de frein carbone, en Rhône-Alpes, l'extension du site du Creusot, on investit 70 millions d'euros et on l'a annoncé il y a quelques jours.
Vous allez passer à 300
en
salariés.
Bourgogne, oui. Absolument. Donc, voyons, on continue d'investir. Et je peux vous dire que plus de la moitié des investissements qu'on fait au niveau du groupe mondial, on les fait en France. Voilà.
Olivier Andriès, le directeur général de Safran, merci d'avoir accepté l'invitation d'On n'arrête pas l'écho.
Merci à vous.
On n'arrête pas l'écho. Sur France Inter.
Sandrine Foulon, notre auditrice Adeline, vous écrit de Saint-Jean-de-la-Ruelle, c'est dans le Loiret. Elle a signé une rupture conventionnelle mi-janvier, elle a pu récupérer son dernier bulletin de salaire sur un espace numérique. Elle a bien touché les sommes qui lui étaient dues, mais début février, malgré plusieurs relances, Adeline n'avait toujours pas reçu les documents de fin de contrat. Son employeur a-t-il un délai à respecter pour les lui remettre et quel recours à Adeline s'il continue de faire la sourde oreille ?
Adeline, dès le moment où la rupture est signifiée, l'employeur doit vous remettre un certificat de travail qui dit que vous êtes libre de tout engagement, le solde de tout compte et bien sûr l'attestation France Travail. Ce document est essentiel pour vous inscrire au chômage. D'ailleurs, l'employeur doit également le communiquer à l'institution. Tout ça doit se faire sans délai. C'est ce qu'a rappelé un arrêt de la Cour de cassation cet automne. Et même, ce n'est pas votre situation Adeline, mais même en cas de faute grave, l'employeur doit remettre tous ses papiers le jour de la notification du licenciement. Il n'a pas à attendre la fin d'un préavis qui n'aurait pas été réalisé. Pour vous Adeline, le mieux est de vous rapprocher d'un élu du personnel. Si vous n'obtenez toujours pas gain de cause, vous avez la possibilité de saisir les prud'hommes. Vous pouvez même obtenir des dommages et intérêts. L'entreprise, elle, encourt une amende de 7 500 € en cas de remise tardive de tous ses papiers.
Oui, c'est important parce que sans cette attestation France Travail, Adeline est coincée pour s'inscrire au chômage. Mais Sandrine Foulon, après une rupture conventionnelle, de toute façon, notre auditrice devra patienter avant de toucher des allocations.
Oui, c'est ce qu'on appelle le différé d'indemnisation. Aujourd'hui, en fonction du nombre de zéros sur votre chèque de départ, Adeline, ce délai de carence peut varier d'une semaine à 5 mois. Demain, Ces conditions pourraient changer. Le patronat, qui négocie en ce moment avec les syndicats, a demandé à l'UNEDIC d'étudier une série d'options pour limiter le succès des ruptures conventionnelles. Les conditions pour s'affilier pourraient être durcies. Les chômeurs n'auraient plus droit qu'à 12 mois d'allocation au lieu de 18. On pourrait aussi leur appliquer un système de dégressivité des indemnités ou encore créer une franchise de 5 ans entre deux séparations. Vous l'aurez compris, Adeline, ces divorces par consentement mutuel sont dans le collimateur. Les salariés en abuseraient pour ne pas chercher du travail, les employeurs en profiteraient pour virer des gens. Ce ne serait plus que des démissions, des licenciements ou des pré-retraites déguisées. Pourtant, les études ne disent pas franchement ça. Rien ne permet de renvoyer la faute sur l'une ou l'autre des parties. Le principal tort de ces ruptures est d'avoir comblé un besoin et de coûter cher à l'assurance chômage. Elles sont au cœur d'une négociation au terme de laquelle le gouvernement espère 400 millions d'euros d'économies.
Sandrine Foulon, Ma vie au boulot.